a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Jean-Philippe Moinet. Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes fondateur et directeur de la revue Civique. Vos analyses et commentaires dans un instant. Vague de menaces via les messageries internes aux établissements scolaires. Départ précipité d'un proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris après avoir été menacé de mort. L'éducation nationale et sa ministre cherchent la parade pour rétablir la sérénité. L'indignation est toujours importante après que ce directeur ait été voué aux gémonies après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile, jusqu'au Premier ministre qui a annoncé une plainte pour dénonciation calomnieuse contre elle. La ministre de l'Éducation annonce la création d'une force de mobilité scolaire, 20 personnes qui se rendraient dans des écoles quand il y a un problème. Et Nicole Belloubet qui appelle à la sensibilisation à la laïcité. La réaction sur France Inter à la mi-journée d'Edwige Diaz, députée de Gironde, vice-présidente du Rassemblement National.
Moi, j'ai un certain nombre de professeurs dans mon entourage. Ils m'ont dit, mais sensibiliser à quoi? Moi, je pense que Madame Belloubet a peur de nommer le mal. Et donc, tant qu'elle nommera pas le mal, tant que l'éducation nationale et l'État ne s'armeront pas pour lutter contre l'entrisme islamiste dans les établissements scolaires, tout le reste sera peu convaincant. J'ai posé la question à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, pourquoi vous ne nommez pas le mal? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, nous sommes une force, nous sommes un bouclier. Bah écoutez, avec son bouclier en carton, je pense que les islamistes doivent bien rire. Donc moi, je dis qu'il faut mener la guerre aux islamistes, mettre en œuvre des sanctions planchers. Et si les parents sont démissionnaires ou dépassés par la situation, il faut suspendre les allocations familiales.
De nombreuses voix s'élèvent pour parler de la faillite de l'État. Et Sacha Houlier, député Renaissance de la Vienne et président de la commission des lois, s'inscrit en faux. C'était sur RTL à midi.
L'État n'a pas seulement porté plainte contre l'élève pour dénonciation calomnieuse, l'État a aussi porté plainte et instruit des poursuites contre la personne qui a menacé de mort, c'est-à-dire le grand frère de l'élève, qui a menacé de mort le proviseur. Et donc l'État a cessé de mettre la poussière sous le tapis sur la question de l'école. Et ce que nous avons fait adopter en 2021, la loi séparatisme, pour que tous ces comportements soient violemment sanctionnés, pour que tous les élèves qui subissent ce type de pression communautaire soient mieux protégés. Oui, nous l'avons fait.
Aurore Berger était sur Europe 1 ce matin sur cette question de la laïcité. La ministre à la lutte contre les discriminations renvoie certains partis dos à dos.
Des deux côtés de l'échiquier, aux deux extrêmes, il y a à la fois d'un côté ceux qui ont complètement basculé à l'extrême gauche et qui ont complètement et radicalement changé d'avis. Quand vous reprenez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, il y a 10 ans ou 15 ans, il était très clair sur les principes de laïcité, sur la question du voile notamment. Et puis, il s'est dit que finalement, électoralement, c'était pas payant. Et puis de l'autre côté, je pense que l'extrême droite participe justement à faire monter ce sentiment, notamment parmi les plus jeunes, que la laïcité serait un principe d'oppression. Parce que quand vous ne parlez de laïcité que pour parler du voile, forcément, à un moment, vous avez ce choc qui peut s'opérer.
Jean-Philippe Moinet de la revue Civique. En France, la question de la laïcité ne cesse donc d'être d'actualité et d'être débattue. Pourquoi ?
Première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un principe historiquement constitutif de la France républicaine, depuis la Révolution française qui a fait suite avec combien de combats à la monarchie absolue de droit divin. Et la France s'est constituée autour de l'idée que les religions avaient leur place dans la société, mais qu'il fallait un principe de séparation entre l'État et ces mêmes religions. Et la loi de 1905... bien après la Révolution française de 1789, a établi, a stipulé ce principe de séparation entre les églises, et surtout l'église catholique, mais les églises, et l'État. Et ce principe de séparation inspire et indique et surtout stipule et oblige un principe de neutralité dans l'État.
119 ans plus tard, on est toujours à des chamailles.
Alors, depuis, on le voit bien qu'il y a des forces religieuses pour certaines, ont des partis qui se sont radicalisés, ça n'a échappé à personne. Donc quand j'entends dire que le sujet de l'islamisme n'est pas mentionné, n'est pas nommé, ça fait des années qu'on doit malheureusement nommer ce qui fait face à la République, à savoir l'islamisme radical. Et donc cet islamisme radical a fait qu'il y a effectivement des influences qui ont eu lieu de plus en plus au sein même, au cœur de l'État qu'est l'école de la République. Et en 2004... Il y a eu cette loi qui a d'ailleurs été très consensuellement adoptée du Parti communiste à la droite républicaine de l'époque pour établir une obligation de neutralité encore plus ferme dans l'école, à savoir l'interdiction des signes ostensiblement religieux, dont notamment le voile islamique. Et donc cette loi a maintenant 20 ans. Et malheureusement, il y a des exceptions à son application, en tout cas de la part de certaines élèves et de leurs parents, d'ailleurs, qui sont souvent d'ailleurs influents dans ce genre de tentative de ne pas appliquer simplement la loi, parce que la loi, elle est là. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tensions, qu'il y a des provocations, qu'il ne faut pas nier, mais il ne faut pas non plus les instrumentaliser et en faire un débat politicien qui est un peu indigne, je trouve, quand des personnes sont menacées. Et ce qui était frappant aussi, c'est que les professeurs ont été très solidaires. Les professeurs sont les premiers solidaires par rapport aux menaces qui ont été subies par ce proviseur dans le nord de Paris. Et la classe politique tente parfois, notamment aux extrêmes, d'exploiter ce genre de sujet, ce genre de polémique.
Ce qui se passe dans l'éducation nationale, et on se souvient aussi de l'assassinat de deux enseignants, s'inscrit dans un contexte de menaces beaucoup plus large en ce moment.
Oui, vous avez raison d'évoquer que ça n'a échappé à personne non plus que l'actualité internationale est marquée malheureusement non seulement par des menaces, mais par des attaques terroristes qui sont multiformes et d'ailleurs qui touchent tous les pays, qu'ils soient démocratiques, même si on peut contester certains aspects de dérive de la démocratie israélienne. Il y a eu une attaque terroriste le 7 octobre, il y a eu une attaque il y a quelques 8 jours d'un pays autoritaire, même dictatorial, qui est la Russie de M. Poutine, qui a frappé et revendiqué par État islamique. On voit que le système de défense européen et français de lutte contre le terrorisme est à son niveau le plus élevé. Il faut le rappeler que le niveau urgence attentat est aujourd'hui effectif pour tenter de déjouer des attentats. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé la capacité des services de déjouer un attentat récemment encore dans notre pays. Donc, parler, comme j'ai entendu dire, de bouclier de carton est indigne aussi par rapport aux services de sécurité français, indépendamment de leur direction politique, qui font leur travail avec efficacité le plus possible.
Philippe Le Caplain. Venons-en aux mauvais chiffres de l'économie française. Le déficit du budget a été l'an passé de 154 milliards d'euros, ce qui représente 5,5% du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite. Le chef du gouvernement n'hésite pas à parler de gestion rigoureuse de la dépense publique et le ministre de l'économie annonce qu'il va falloir faire 10 milliards d'économies cette année, ce qui crispe beaucoup de monde. Manuel Bompard, de la France Insoumise, qui accuse l'exécutif d'être responsable de cette situation et propose ses solutions pour amener de l'ordre dans les comptes publics, comme il l'a expliqué sur LCI.
Monsieur Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a renoncé à 50 milliards d'euros de recettes de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il a baissé les impôts pour les plus riches, il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, ça nous a coûté 5 milliards d'euros. Il a supprimé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est plus de 10 milliards d'euros. Quand il y a un déficit, il y a deux manières d'y répondre. Soit on réduit les dépenses, soit on augmente les recettes. Donc je suis favorable à augmenter les recettes. Augmenter les recettes, c'est rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, c'est mettre en place enfin une véritable taxe sur les super-profits, ça peut ramener entre 10 et 20 milliards. Annulation de la dette qui a été contractée pendant le Covid, c'est-à-dire celle qui est détenue dans les coffres de la Banque Centrale Européenne, on la met au frigo et on la laisse fondre avec l'inflation. Et ça nous permet d'investir dans le développement de nos services publics, parce que je pense que tout le monde dans ce pays sait qu'aujourd'hui nos services publics sont à l'os. Je considère qu'on a besoin aujourd'hui de dépenser plus pour notre système de santé qui est dans une situation de souffrance extraordinaire, parce qu'on a besoin de dépenser plus pour notre éducation nationale qui est dans un état désastreux.
Et en face, au sein du parti présidentiel, ce que dit le député Sacha Houlier.
Pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu des Français, très clair. Pas d'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés, très clair. En revanche, il y a aujourd'hui un contexte économique qui montre que, d'abord, il faut faire un effort pour tous. Et s'il faut faire un effort pour tous, il faut que cet effort soit juste. Et si l'effort est juste, alors il doit concerner aussi ceux qui font les plus grandes marges, ceux qui font les plus grands profits. Je rappelle qu'en juillet 2022, nous avions proposé avec quelques parlementaires de créer une taxe sur les super-profits. Nous y sommes parvenus dans la loi de finances de 2023. Est-ce que cette taxe sur les superprofits a rapporté suffisamment ? Non, elle a rapporté 300 millions d'euros, là où nous estimions qu'elle pouvait rapporter 3 milliards d'euros.
Jean-Philippe Moinet, ce déficit très important, donc, est-ce que c'est la facture à payer de la période Covid ?
Alors, c'est vrai que la période Covid a fait exploser les dépenses publiques. Et notons que les dépenses publiques et sociales, d'ailleurs, françaises, sont dans un niveau record au niveau de tous les pays de l'Union européenne, en termes de niveau. Et c'est vrai que la période Covid, du quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte, a été de l'ordre de 240 milliards. D'euros sur la pré-Covid, qui a permis, par exemple, c'était un des aspects qui était d'ailleurs sans égal en Europe, de protéger 12 millions de salariés qui ont été en chômage partiel, financés très grandement par l'État. Et donc, cette facture-là, il fallait la payer. Il y a eu ensuite, on le sait, l'attaque russe en Ukraine qui a provoqué une déstabilisation des marchés de l'énergie, l'inflation qu'on a connue et le bouclier tarifaire qui lui a coûté 85 milliards. Donc 240 milliards, 85 milliards entre 2021 et 2023, le coût finalement de ce bouclier tarifaire qui était le résultat de l'attaque russe pour essayer de limiter les pertes de pouvoir d'achat des plus défavorisés. Donc il y a eu cette double facture d'un seul coup. Et le passage d'un déficit public qui était de 6,6% en 2021, au moment du COVID, après le Covid, qui était redescendu à 4,8% en 2022 et remonté, là, pour 2023, c'est les derniers chiffres, à 5,5%, ce déficit public qui s'explique parce que les recettes liées notamment à la reprise de la croissance n'ont pas été suffisantes. Elles ont été de plus 2% en 2023, elles étaient de plus 7% en 2022. Donc il n'y a pas eu assez de recettes dans les caisses de l'État et les dépenses ont été croissantes. Donc il y a un moment donné, il faut choisir et trancher.
Alors cette situation a compliqué les comptes publics. Est-ce que cela affaiblit la France sur la scène européenne, notamment vis-à-vis de l'Allemagne ? Difficile de montrer l'exemple de gestion quand on n'est pas irréprochable.
Oui, parce que en fait, vous avez raison, c'est en comparaison de nos pays voisins et dans la compétition économique et sociale dans laquelle on est, les comparaisons sont forcément nécessaires à un moment donné. Et donc, c'est le problème aussi en France, c'est la tendance. Je regardais l'autre jour l'évolution des dépenses publiques et sociales depuis les années 60. C'est assez impressionnant. On était à 30% du PIB dans les années 60 de dépenses publiques et sociales. On est passé à près de 60%. Donc, il y a un doublement en valeur relative par rapport au PIB qui lui-même a beaucoup augmenté avec les croissances depuis les années 60, mais il y a eu un doublement du niveau de dépenses publiques et sociales. Et face à ça, on voit que tendanciellement, les recettes ont suivi, mais pas totalement. Donc, et comme on sait que les recettes peuvent avoir des limites, notamment pour le pouvoir d'achat, parce que quand on augmente les impôts, il faut bien prendre quelque part. Et donc, les impôts, c'est aussi les prélèvements obligatoires pour les dépenses sociales viennent pour beaucoup des Français. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose à ajuster. Alors, là, ça devient béant.
Et justement, pour trouver de l'argent public, le Premier ministre annonce qu'il faut une nouvelle fois réformer le régime d'assurance chômage. Troisième réforme en 5 ans, sachant que la dernière en date n'est pas encore entrée en vigueur. Pas question de faire une nouvelle réforme, prévient la France Insoumise par la voix de son coordinateur national, Manuel Bompard.
C'est pas vrai que cette mesure va permettre d'apporter quelques réponses que ce soit au déficit. On parle des comptes de l'UNEDIC. Les comptes de l'UNEDIC sont excédentaires cette année, ils vont l'être encore l'année prochaine, tout le monde le sait. D'abord, il faut que les salaires augmentent, parce que si vous voulez que les gens aillent encore plus vers le travail, il faut faire en sorte que leur rémunération leur permette de vivre dignement. Donc, moi, je suis favorable à augmenter le SMIC. Essayez de faire croire, comme le fait ce gouvernement, que le problème du chômage aujourd'hui, c'est les emplois non pourvus. Tout le monde le sait que ce n'est pas vrai. Il faut plus de salaires et il faut créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut investir.
Les critiques sont nombreuses et la ministre Aurore Berger entend y répondre.
Ceux qui aujourd'hui nous reprochent soi-disant le manque de responsabilité sont ceux qui, dans le même temps, ne nous demandent que des dépenses supplémentaires.
Bruno Le Maire dit qu'il faut passer de l'État-providence à l'État-protecteur.
La question qu'on pose, c'est est-ce que les Français souhaitent qu'on garde ce modèle social qui est indexé au travail. Et donc, ce sont des réformes que nous avons faites, retour à l'emploi sur l'assurance chômage, d'allongement de la durée de vie d'activité sur les retraites, de retour à l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Ou est-ce qu'il faut changer de modèle et adosser ce modèle social sur d'autres réalités, par exemple la consommation. Pour l'instant, ce n'est pas le choix qu'on fait. On fait le choix, en effet, de tenir sur un modèle social auquel on croit, ce qui suppose de renforcer une dynamique de réforme qui est la nôtre.
Mais l'aile gauche de la Macronie multipliait les mises en garde contre le projet du gouvernement de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs, à l'image du président de la commission des lois à l'Assemblée, Sacha Houlier.
On a mis en place ce qu'on appelle la contracyclicité, et derrière ce gros mot, c'est de dire chaque fois que le chômage baissera, alors on pourra durcir les règles. Est-ce qu'aujourd'hui le chômage baisse ?
Non.
Non, il stagne, voire il augmente un tout petit peu. Donc est-ce qu'il est nécessaire, à partir de ce moment-là, de réduire la durée d'indemnisation pour avoir un retour vers l'emploi ? Non. Précisément parce que, pour le coup, ça n'a pas les effets escomptés. Si nous réduisons la durée d'indemnisation, à quelle fin le faisons-nous ? Une mesure d'économie. Est-ce que je pense qu'il faut le faire une mesure d'économie sur les chômeurs aujourd'hui ? Je ne le pense pas.
Pour sa part, dans le journal Ouest France d'aujourd'hui, le ministre de l'économie déclare « Soyons clairs, ce n'est pas une réforme financière, nous ne la faisons pas pour faire des économies, mais pour parvenir au plein emploi ». Jean-Philippe Moinet, à peine les plaies de la loi immigration se referment-elles que l'exécutif, le parti présidentiel et sa majorité donc, semblent ouvrir un nouvel épisode de division ?
Oui, en tout cas, c'est des mesures, si elles sont confirmées, parce qu'on sait que c'est des hypothèses qui sont maniées par les partenaires sociaux ensuite pour arbitrer avant ou pendant l'été. Mais la question des dépenses sociales est très importante. On l'a vu avec les retraites, hein, c'était très douloureux en France. Et passé de 62 à 64 ans, on a vu l'ensemble des manifestants étaient très nombreux dans notre pays. Alors que quand on regarde les comparaisons européennes, 64 ans pour la retraite, c'est encore en dessous de la moyenne européenne. Mais en France, il y a effectivement ce modèle sacro-saint social qui fait qu'il y a beaucoup de résistances, sans doute justifiées, d'autres moins. Et en tout cas, on regarde la capacité de la France à gérer ses dépenses publiques et sociales. Rappelons que les cotisations pour les chômeurs ne reposent pas sur l'impôt, elles reposent sur ce qu'il y a sur notre fiche de paie, à savoir les cotisations des employeurs et des employés. Donc cette question de l'arbitrage aussi des dépenses sociales pour ce qui concerne le chômage relève aussi de cet arbitrage sur ce qu'on met, nous, chacun, chaque citoyen, de manière civique, finalement, pour soutenir les chômeurs. Est-ce qu'on le fait beaucoup, pas beaucoup, moyennement ? Et ces arbitrages aussi pèsent sur l'arbitrage du pouvoir d'achat, parce que toute la bataille du pouvoir d'achat et de l'emploi, ça se rejoint également.
Ce sera après-demain, cela fera un demi-siècle que cette annonce a été faite à la télévision.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou.
Le président Pompidou est décédé 2 ans avant la fin de son mandat. Mardi sera rendu une multitude d'hommages, comme celui que lui rendront les Républicains au pied de sa statue sur les Champs-Élysées. Dans le genre, c'était mieux avant, Pompidou se pose là, Jean-Philippe Moinet, car il incarne finalement une mythologie des années heureuses de la France.
Oui, c'est vrai que ce soi-disant « c'était mieux avant » est très relatif, il faut regarder de près, mais ça correspond à la fin des Trente Glorieuses. Souvenons-nous, après la libération de la France, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'enclenchait une période de croissance, de prospérité, de relatif bien-être, mais de bien-être quand même, et qui ont été terminées avec le choc pétrolier. Le premier choc pétrolier qui est intervenu à la fin des années Pompidou, au début des années Giscard. Et donc, ça avait cette période effectivement heureuse d'industrialisation de la France, les années Concorde aussi, qui correspondaient aux années Pompidou.
Et comme celui de Gaulle, dont il a été très proche, puis le Premier ministre, l'héritage de Georges Pompidou est revendiqué par la droite et le macronisme d'ailleurs. L'ancien président le cite régulièrement sous forme de clin d'œil.
Oui, c'est vrai, il est cité. Alors, il va être cité d'ailleurs par son successeur Valéry Giscard d'Estaing, qui, comme lui, avant Emmanuel Macron, était le premier président de la 5e, le plus jeune de l'histoire de la 5e. Et j'ai appris récemment que Emmanuel Macron allait intervenir publiquement le 27 mai, au moment de la commémoration de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, juste après la mort de Georges Pompidou, qui avait comme Premier ministre à l'époque, c'est juste un mot, Jacques Chaban-Delmas, qui avait porté le projet de nouvelle société, donc la rénovation de la vie politique.
Et Georges Pompidou, qui repris par Emmanuel Macron, qui disait « Il faut arrêter d'emmerder les Français ». Jean-Philippe Moinet, merci pour vos analyses et commentaires. Je signale votre dernier ouvrage, un journal sous influence, publié par Kindle Edition.
Merci pour votre invitation.